Section 3. Le plan du Nouveau Testament. Les disciples du Christ ont été rachetés en vue du service. Ils doivent se dépenser pour Dieu et pour leurs semblables. Notre Seigneur enseigne que le véritable but de la vie, c'est l'utilité commune. Le Christ lui-même fut un ouvrier, et il a fait du travail une loi pour tous. Il a présenté au monde une conception de la vie plus élevée que celle qui lui avait jamais été proposée jusqu'alors. Une vie consacrée à servir le prochain met l'homme en communion avec le Christ. La loi du service est l'anneau qui nous relie à Dieu et à nos semblables. Le Christ confie ses biens à ses serviteurs, comme quelque chose qu'ils doivent utiliser pour son service. À chacun il donne sa tâche, car chacun est appelé à collaborer avec lui au salut des âmes. Notre champ d'activité ici-bas est tout aussi certain que la place que le Seigneur est allé nous préparer dans les parvis célestes. Chapitre 6. Notre exemple dans le ministère de la bienfaisance. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Marc 10, verset 45. Le Christ est notre grand modèle. Prenez l'œuvre du Christ comme exemple. Il allait partout, faisant le bien, nourrissant les affamés et guérissant les malades. Aucun de ceux qui venaient à lui ne repartait déçu. Chef des cours célestes, il revêtit notre chair et habita parmi nous. Sa vie fut un exemple de ce que nous devons faire. Son tendre amour, sa pitié condamnent notre égoïsme et notre cruauté. Le Christ est le chef de l'humanité qu'il a revêtu. Il témoignait une telle sympathie et un tel amour que les plus pauvres n'hésitaient pas à venir à lui. Il manifestait de la bonté pour tous, de sorte que les plus humbles pouvaient l'approcher. Il allait de maison en maison, guérissant les malades, nourrissant les affamés, consolant les affligés, parlant de paix à ceux qui étaient dans la détresse. Il s'humiliait volontiers lui-même, ne pensant qu'aux autres. Il ne cherchait pas à se mettre en avant, mais se faisait le serviteur de tous. Sa nourriture et son breuvage quotidien consistaient à réconforter et consoler autrui, faire renaître la joie dans les cœurs endeuillés. Le Christ se présente devant nous comme l'homme modèle, le grand missionnaire médical, l'exemple pour tous ceux qui veulent le suivre. Son amour, pur et saint, rejaillissait sur ceux qui se plaçaient sous son influence. Son caractère était d'une perfection absolue, exempte de toute trace de péché. Il était l'expression de l'amour insondable de Dieu, non pour accabler, pour juger et condamner, mais pour redresser le caractère défectueux, pour délivrer hommes et femmes du pouvoir de Satan. Il est le Créateur, le Rédempteur, le soutien du genre humain. Il adresse à tous cette invitation « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Tel est l'exemple que nous devons présenter au monde. Il nous faut accomplir un travail semblable à celui du grand missionnaire médical, suivre le sentier du sacrifice et du renoncement foulé par le Christ. Le Christ était ému de compassion. Voyant la foule qui l'entourait, le Christ fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le Sauveur avait connaissance de l'état de maladie comme des soucis, des misères et de la dégradation de la multitude qui se pressait sur ses pas. Tous les besoins, toutes les détresses de l'humanité lui étaient connues. Parmi les grands et les petits, les plus honorés comme les plus dégradés, il voyait des âmes qui soupiraient après les bénédictions qu'il était venu apporter. Le même état de choses subsiste de nos jours. Le monde a un réel besoin d'hommes qui travaillent comme a travaillé le Christ en faveur de ceux qui souffrent et en faveur de tous les pécheurs. Il faut atteindre une multitude de gens. Le monde est envahi par la souffrance, la maladie, la détresse et le péché. Il est rempli d'êtres qui ont faim et soif du message destiné aux faibles, aux délaissés, aux ignorants, aux misérables. Le modèle que nous devons suivre. Le véritable esprit missionnaire est celui du Christ. Le Rédempteur du monde fut le grand modèle missionnaire. Beaucoup de ses disciples ont travaillé avec ferveur et abnégation au salut de l'humanité. Mais le travail d'aucun homme ne peut supporter la comparaison avec l'abnégation, le sacrifice, la bienfaisance de notre modèle. L'amour que le Christ a manifesté pour nous est sans égal. Avec quelle ferveur il travaillait! Bien souvent, il s'isolait sur le flanc de la colline ou dans un jardin retiré pour faire monter vers le ciel ses supplications, parfois avec de grands cris et des larmes. Avec quelle persévérance il priait en faveur des pécheurs! Même sur la croix, il oubliait ses propres souffrances dans son amour pour ceux qu'il était venu sauver. Combien froid est notre amour et faible notre intérêt pour les choses spirituelles si on les compare à ceux que manifestait notre Sauveur. Il se donna lui-même pour nous racheter, et cependant avec quelle promptitude nous nous excusons de ne pas lui donner tout ce que nous possédons. Notre Sauveur s'astreignit à un travail harassant, à l'ignominie et à la souffrance. Il fut rejeté, raillé, tourné en dérision, alors qu'il se consacrait à la grande œuvre qu'il était venu accomplir. Vous vous dites, mes frères et mes sœurs, quel modèle devons-nous suivre? Je n'attire pas votre attention sur des hommes dévoués et remarquables, mais sur le Rédempteur du monde. Si nous voulons posséder le véritable esprit missionnaire, il faut que nous soyons imbus de l'amour du Christ, que nous regardions à l'auteur et au consommateur de notre foi, que nous étudions son caractère, que nous cultivions son esprit de douceur et d'humilité, et que nous suivions l'empreinte de ses pas. Il en est beaucoup qui supposent que l'esprit missionnaire et les aptitudes pour le travail en faveur des âmes sont des dons spéciaux ou des capacités accordées à tous les prédicateurs et à quelques membres d'église, et que tous les autres doivent être de simples spectateurs. Il n'y eut jamais plus grande erreur. Chaque vrai chrétien possède un esprit missionnaire, car être chrétien, c'est ressembler au Christ. Nul ne vit pour soi-même, et si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Quiconque a goûté aux puissances du monde à venir, qu'il soit jeune ou vieux, cultivé ou non, sera animé de l'esprit qui était en Christ. Le premier mouvement du cœur renouvelé est d'en amener d'autres au Sauveur. Ceux qui ne ressentent pas ce désir prouvent qu'ils ont perdu leur premier amour. Ils devraient examiner soigneusement leur propre cœur à la lumière de la parole de Dieu et chercher avec ferveur un nouveau baptême de l'Esprit du Christ. Ils devraient prier pour obtenir une plus grande compréhension du merveilleux amour que Jésus a manifesté à notre égard en quittant le royaume de gloire pour venir dans un monde perdu sauver ceux qui périssent. L'interprétation de l'Évangile donné par le Christ, la mission divine n'a pas besoin de réforme. La manière dont le Sauveur présentait la vérité ne peut être améliorée. Il a donné à ses disciples des leçons pratiques, leur enseignant comment travailler pour amener des âmes à la vérité. Il sympathisait avec ceux qui étaient fatigués et chargés. Il nourrissait les affamés, guérissait les malades. Il ne cessait de faire le bien. Par ses paroles d'amour et ses actes de bonté, il interprétait l'Évangile aux hommes. Au cours de son bref ministère public, il s'acquitta de l'œuvre pour laquelle il était venu ici-bas. Quelle impression produisaient les vérités qu'il enseignait? Comme sa vie fut bien remplie! Quelle nourriture spirituelle il procurait chaque jour à des milliers d'âmes affamées. Sa vie fut un vivant ministère de la parole. Il ne promit jamais rien qu'il ne pût accomplir. Le Sauveur présentait les paroles de vie avec une telle simplicité qu'un enfant aurait pu les comprendre. Hommes, femmes et enfants étaient impressionnés par sa manière d'expliquer les Écritures, au point qu'ils pouvaient, après l'avoir entendu, reproduire l'intonation même de sa voix, ses paroles, ses gestes. La jeunesse s'inspirait de son esprit missionnaire et cherchait à imiter ses manières courtoises en s'efforçant de venir en aide aux nécessiteux. De même que nous devinons un cours d'eau par la verdure qui l'accompagne, de même on pouvait discerner le passage du Christ par les actes de miséricorde qui avaient marqué son sentier. Où qu'il se rendit, la santé renaissait. Il semait partout le bonheur. L'aveugle et le sourd se réjouissaient en sa présence. Il dispensait abondamment et continuellement ses bénédictions. Les trésors de l'éternité étaient donnés dans la personne du Christ, le riche don du Seigneur fait à l'homme. Mais l'œuvre de Jésus en faveur de l'humanité n'est pas terminée. Elle se poursuit encore de nos jours. Ses ambassadeurs doivent continuer à prêcher l'Évangile et révéler son amour pour les âmes qui périssent. En exerçant un ministère désintéressé envers ceux qui ont besoin d'aide, ils font une démonstration pratique de la vérité évangélique. Cette œuvre comprend beaucoup plus qu'un simple sermon. il s'agit de l'évangélisation du monde que Dieu a ordonné de faire en son nom. Ils doivent être des collaborateurs du Christ, en révélant à ceux qui vont à leur perte sa pitié, son tendre amour. Dieu adresse un appel à des milliers d'hommes afin qu'ils travaillent pour lui, non en prêchant la parole à ceux qui connaissent la vérité, mais en avertissant ceux qui n'ont jamais entendu parler du dernier message de miséricorde. Travaillez avec un cœur débordant de zèle pour les âmes qui se perdent. Accomplissez une œuvre missionnaire médicale. Vous gagnerez ainsi les cœurs, et le chemin sera préparé pour une proclamation plus décisive de la vérité. Qui veut être ouvrier avec le Christ dans cette œuvre missionnaire médicale? Qui a appris les leçons du Maître et sait comment toucher les âmes pour lesquelles le Christ a donné sa vie? Il nous faut, en grand nombre, des médecins dont l'âme a été éduquée à l'école du Christ et qui peuvent travailler selon sa méthode. Chapitre 7. Les visites. Le plan du Nouveau Testament. Les méthodes de travail du Christ. Nous pouvons apprendre beaucoup des méthodes de travail du Christ. Il n'en suivait pas qu'une seule. Il attirait de différentes manières l'attention de la multitude pour présenter devant elle les vérités de l'Évangile. Le Sauveur s'occupait surtout des pauvres, des nécessiteux et des ignorants. En toute simplicité, il les préparait à recevoir les bénédictions du ciel, et ainsi, il créait en eux le désir d'avoir part au pain de vie. La vie du Christ est un exemple pour tous ses disciples. C'est à ceux qui ont appris à le suivre qu'il incombe d'enseigner aux autres à croire à la parole de Dieu. Ils sont nombreux aujourd'hui, ceux qui ont besoin d'être instruits sur les vérités de l'Évangile. La plupart des hommes vivent dans la méchanceté, mais nous avons des paroles d'espérance pour tous ceux qui sont dans les ténèbres. Le ministère du Christ de maison en maison, notre Sauveur allait de maison en maison, guérissant les malades, réconfortant les malheureux, apaisant les affligés, parlant de paix aux inconsolables. Il prenait les petits-enfants dans ses bras et les bénissait, et il disait des mots d'espoir et de réconfort aux mères fatiguées. Avec une constante tendresse, il abordait toutes les formes de la misère et de la douleur humaine. Ce n'était pas pour lui, mais pour les autres qu'il se dépensait. Il était le serviteur de tous. Sa nourriture et son breuvage, c'était d'apporter l'espoir et la force à tous ceux qu'il rencontrait. Le vrai succès procède de la méthode du Christ. La méthode du Sauveur pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait « Suivez-moi ». C'est ainsi que l'Église chrétienne a été fondée. Le Christ a choisi quelques personnes et leur a dit de le suivre. Celles-ci allèrent trouver leurs parents et leurs amis et les amenèrent au Sauveur. Voilà comment nous devons travailler. Quelques âmes bien fondées dans la vérité en évangéliseront d'autres, comme les premiers disciples. Le divin exemple d'évangélisation personnelle, Jésus se mettait en contact personnel avec les hommes. Il n'évitait pas ceux qui recherchaient son aide. Il entrait dans les maisons, consolait ceux qui pleuraient, guérissait les malades, réveillait les indifférents, faisait le bien. Si nous suivons l'empreinte de ses pas, nous agirons comme lui, nous manifesterons la même bonté envers les nécessiteux. Ce n'est pas la prédication qui est la chose la plus importante, mais le travail de maison en maison et l'explication détaillée de la parole de Dieu. Le Seigneur désire que la parole de grâce soit présentée à toute âme. Le travail personnel entre pour une grande part dans cette œuvre. C'était la méthode du Sauveur. Son œuvre consistait en grande partie en entrevues personnelles. Il faisait grand cas des entretiens intimes avec une seule personne, et il arrivait fréquemment que le message évangélique était transmis par cette âme unique à des milliers d'autres. Les 12 apôtres envoyés de maison en maison. Les disciples devaient effectuer ce premier tour uniquement dans des endroits visités par Jésus et dans des milieux où ils s'étaient fait des amis. Rien ne devait distraire leur esprit d'une œuvre aussi importante ou provoquer une opposition qui pourrait les gêner au cours de leurs travaux. Ils ne devaient pas adopter les vêtements des docteurs de la religion et rien dans leur extérieur ne devait dissimuler leur humble origine. Ils ne devaient pas convoquer des assemblées dans des synagogues, leur travail devait se faire de maison en maison. En entrant dans une demeure, ils devaient prononcer cette belle salutation « La paix soit sur cette maison ». Ce foyer serait rendu heureux par leurs prières, leurs chants de louanges et l'étude de l'Écriture faite en famille. Les 70 de même. Ayant appelé les 12, Jésus les envoya deux à deux dans les villes et les villages. Personne ne partit seul. Le frère fut associé au frère, l'ami à l'ami. Ils pourraient ainsi s'encourager mutuellement, prendre conseil l'un de l'autre et prier ensemble, la force de l'un venant au secours de la faiblesse de l'autre. Plus tard, il envoya, de la même manière, les 70 disciples. C'était le dessein du Sauveur que les messagers de l'Évangile fussent ainsi unis. Notre œuvre d'évangélisation porterait beaucoup plus de fruits si nous suivions de plus près cet exemple. Paul allait de maison en maison. Paul travaillait en public, mais aussi de maison en maison, prêchant la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il allait trouver les hommes chez eux et, avec larmes, leur déclarer tout le conseil de Dieu. Le secret de la puissance et du succès de Paul. À une certaine occasion, Paul dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduite avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Ces paroles expliquent le secret de la puissance et du succès de Paul. Il ne négligeait rien de ce qui pouvait être profitable pour les gens. Il parlait du Christ publiquement, sur les places du marché et dans les synagogues. Il enseignait de maison en maison, se mêlant aux conversations familiales. Il visitait les malades et les affligés, et les réconfortait. C'est ainsi qu'il prêchait un Sauveur crucifié et ressuscité. Paul gagnait aussi des âmes en exerçant son métier. Au cours de son long ministère à Éphèse, où il fournit pendant 3 ans un travail évangélique intensif, Paul s'adonna à son métier. Certaines personnes critiquaient Paul parce qu'il travaillait de ses mains. À leurs yeux, le travail manuel n'était pas compatible avec la tâche d'un prédicateur. « Pourquoi l'apôtre, objectait-elle, ministre de haute classe, alliait-il le travail manuel à la prédication ? L'ouvrier n'était-il pas digne de son salaire ? Pourquoi s'employait-il à faire des tentes, alors que son temps pouvait être mieux utilisé ? Mais Paul ne considérait pas comme perdu le temps qu'il consacrait à la fabrication de ses tentes. Tout en travaillant en compagnie d'Aquilas, il restait en contact avec le grand maître, cherchant toutes les occasions pour rendre témoignage en faveur du Christ et venir en aide à ceux qui étaient dans le besoin. Son esprit était sans cesse à la recherche de la connaissance spirituelle. Il en entretenait ses compagnons de travail, tout en leur donnant l'exemple de l'activité et de la piété. C'était un artisan habile, adroit et diligent. Fervent d'esprit, il servait le Seigneur. En exerçant son métier, il pouvait pénétrer dans des milieux qu'il n'aurait jamais pu atteindre autrement. Parfois, il arrivait à Paul de travailler nuit et jour, non seulement afin d'assurer sa subsistance personnelle, mais pour aider ses collaborateurs. Il partageait son gain avec Luc et il assistait Timothée. Il endurait parfois même la faim pour subvenir aux besoins des autres. Paul montrait l'exemple de ce que peut être un ministère laïque volontaire. Son activité, son ardeur au travail, est un vivant reproche à l'égard de l'oisiveté et de l'amour de la vie facile. Paul voulait s'opposer, en donnant l'exemple du travail, au sentiment qui grandissait dans l'Église, à savoir que l'Évangile ne pouvait être prêché avec succès que par ceux qui ne sont pas assujettis au travail manuel. L'apôtre démontrait, par sa vie même, comment les frères devaient se comporter partout où l'on ignorait les vérités évangéliques. Sa façon d'agir suggérait aux humbles travailleurs le désir de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, tout en vaquant à leur labeur quotidien. Aquilas et Priscille n'avaient pas été appelés à consacrer tout leur temps à l'évangélisation. Cependant, Dieu se servit de ses modestes serviteurs pour montrer plus parfaitement à Apollos le chemin de la vérité. Le Seigneur emploie différents moyens pour atteindre ses fins. Tantôt, il fait appel à des chrétiens doués de talents particuliers pour enseigner et prêcher l'Évangile. Tantôt, il choisit des hommes modestes qui n'ont jamais été consacrés au ministère et qui sont appelés cependant à jouer un rôle important dans le salut des âmes. Un vaste champ de travail est ouvert aux serviteurs de Dieu qui vivent de leurs propres ressources. Par ailleurs, de nombreux ministres de l'Évangile pourraient, en s'adonnant à un travail manuel quelconque, faire de riches expériences personnelles. Certains prédicateurs capables seraient en même temps formés par cette méthode pour servir utilement dans les champs où les besoins sont pressants. Dans l'esprit qui animait Paul, « Allez visiter vos voisins, les uns après les autres, et conduisez-vous de telle manière que leur cœur soit touché par votre désintéressement et votre sympathie à leur égard. Priez avec eux, profitez des occasions qui se présentent pour leur faire du bien. Si c'est possible, réunissez quelques personnes et expliquez-leur la parole de Dieu. Agissez comme si vous deviez rendre compte des âmes qui vous sont confiées. Remerciez le Seigneur pour le privilège qu'il vous donne de travailler dans sa vigne. Ne négligez pas de parler avec vos voisins et faites-leur tout le bien possible afin de pouvoir en sauver quelques-uns. Ce qu'il nous faut, c'est l'esprit qui animait l'apôtre Paul, qui allait de maison en maison annoncer avec larmes la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Les premières œuvres de l'Église du Nouveau Testament. On vit les premières œuvres de l'Église du Nouveau Testament lorsque les croyants allèrent trouver leurs amis, leurs parents et leurs connaissances, avec des cœurs brûlants d'amour, et leur racontèrent ce que Jésus était pour eux. Succès du plan du Nouveau Testament. Plus on suivra le plan du Nouveau Testament dans le travail missionnaire, mieux on réussira. Nous devons œuvrer comme le divin maître, répandre avec soin la semence de la vérité. Si nous ne voulons pas nous lasser de faire le bien, il nous faut posséder l'esprit du Christ. Sa vie fut un continuel sacrifice en faveur d'autrui. Suivons son exemple. Chapitre 8. Dorcas, son œuvre et son influence. Rendu à la vie pour continuer son œuvre. Au cours de son ministère, l'apôtre Pierre rendit visite aux chrétiens de Lydde. Là, il guérit Énée, paralysé depuis 8 ans. « Énée, lui dit Pierre, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydde et de Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé, près de Lydde, une femme nommée Dorcas, digne disciple de Jésus, très estimée pour ses bonnes œuvres. Sa vie était remplie d'actions charitables. Elle savait qui avait besoin de vêtements chauds, de sympathie, et elle donnait généreusement aux pauvres et aux malheureux. Ses doigts habiles agissaient plus que sa langue. Or, elle tomba malade en ce temps-là, et mourut. Les chrétiens de Joppé comprirent l'importance de leur perte, et, apprenant que Pierre était à Lydde, ils lui envoyèrent des messagers pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. L'apôtre fut ému de compassion devant le chagrin de ses femmes. Ordonnant qu'elles sortent de la chambre, il se mit à genoux et adressa au Seigneur une fervente prière pour qu'il redonne la vie et la santé à Dorcas. Puis, se tournant vers le corps inanimé, il dit « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Dorcas rendait de grands services à l'Église, et Dieu la ramena miraculeusement du royaume des ténèbres, car son activité et son courage pouvaient encore être en bénédiction aux malheureux. Dieu avait, en outre, par cette manifestation de sa puissance, l'occasion d'affermir la cause du Christ. Un digne disciple qui ne pouvait pas disparaître. Elle, Dorcas, avait été un digne disciple de Jésus-Christ. Sa vie avait été caractérisée par des actes de charité et de bonté à l'égard des pauvres et des malheureux, ainsi que par son zèle pour la vérité. Sa mort était une grande perte pour l'Église naissante, qui pouvait difficilement se passer de ses nobles efforts. Cette résurrection fut, à Joppé, le moyen de gagner au Christ un grand nombre de personnes.